Alors, à droite, les animaux de chair qu'on mange, les poulets, les canards, les pintades, les... Et voilà. À gauche, j'ai les poules pondeuses qui sont uniquement pour les œufs.
Et celles qui sont dehors?
Ah non, c'en est qui se sauvent. Dans... Les poules de chair, là, elles ont 100 mètres carrés. Donc, 10 mètres sur 10 mètres. Et ceux-là, elles doivent avoir 60 mètres carrés.
Donc j'ai mon fils qui souhaite être agriculteur, donc mais ça depuis qu'il est tout jeune, il a toujours aimé la terre, l'extérieur, les animaux. Donc quand il a fallu choisir l'orientation, eh bien on est allé voir le lycée agricole de Magnanville. On s'était aussi renseigné sur un lycée au Neubourg dans l'Eure. Et en fait il a choisi bon le plus près, Magnanville. Et puis bon bah apparemment ça a l'air de lui plaire. Donc il est dans cette voie en espérant pour lui devenir agriculteur. Maintenant, on sait que le parcours sera peut-être pas très facile parce qu'on n'a pas le papa qui est agriculteur pour passer les terres. Donc maintenant, ben, c'est au petit bonheur la chance, on verra, on verra. Donc la balle est dans son camp.
Bah avant, je ne les tuais pas, ça me plaisait pas, c'était juste pour, comme animaux, comme ça, pour m'occuper. Mais maintenant, c'est pour faire aussi des animaux de chair. Bah, à force de voir des gens tués.
Alors, j'imagine la première fois, ça doit quand même pas être évident, la première fois que tu tues une poule.
Non, ça va. C'est. Non, ça allait. C'était tout simple. Faut y couper le cou pour la saigner.
Il y a une poule qui s'est sauvée là.
Ouais. C'est des poules comme ça, pas de. S'il y a des coups nus.
C'est les noirs?
Ouais, voilà. Et puis il y a des brahmas, mais ça, c'est des poules d'ornement.
La petite poule beige là, c'est ça? Il y en
Non,
a une là-bas
les
là.
deux grosses à droite. J'ai un coq pour 20 poules, mais c'est suffisant parce que comme je ne fais pas couver les œufs, rien. Normalement, c'est un coq pour 6 poules, mais là, ça me va largement.
Et ça fait longtemps que tu élèves des poules, hein?
Ah ouais, ça fait un moment que j'en élevais, puis j'avais arrêté durant 1 an ou 2, puis bah là, ça fait 2 ans que j'ai recommencé à élever des poules et j'ai aussi des lapins.
On va aller voir les lapins, on peut?
Oui. Donc c'est l'hiver, donc j'évite de faire des petits, parce qu'on ne peut pas leur donner d'herbe et tout. Donc ça sert à rien d'en prendre l'hiver pour les nourrir qu'au granulé.
Mais ça, c'est des gros lapins, ça, c'est pour les manger?
Ouais, c'est... La femelle, elle n'est pas très grosse, c'est juste le mâle, il est un peu vieux, mais pour la reproduction, ça va très bien. Quand j'ai des petits, je mets du foin de luzerne. Là, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop, parce que ça les fait bien grossir. Le foin de luzerne, c'est riche.
Et vous aviez pas des oies aussi pendant un moment?
Oui, mais je les ai tués parce que.
Vous en faisiez quoi des oies?
Ah, c'était pour la décoration, puis elles étaient gentilles en plus. Puis à la fin, elles devenaient méchantes, donc on les a zigouillées.
Mais en fait, toi, t'aimes... Enfin, c'est un truc que tu connais depuis longtemps, ça, le fait de tuer les bêtes là avec la chasse, non?
Bah oui, ouais. Je pratique la chasse aussi.
Et tu chasses depuis combien de temps?
Depuis l'âge de 4 ans, je vais à la chasse. Donc là, ça fait 12 ans.
Mais tu tirais quand même
Non, non, bah là, ça fait 2 ans, 1 an, enfin, depuis le début de l'année que j'ai le permis de chasse. Donc là, oui, je chasse.
On a une ferme qui est juste à côté. Il y allait régulièrement. Il est ami avec le fils des voisins. Donc ils ont la même passion en plus tous les deux. Donc ils sont souvent ensemble. Jean-François va souvent à la ferme de chez mon voisin. Et puis petit à petit, là, je pense que l'idée a germé. On a même des animaux dans notre jardin. On n'a que 1000 mètres carrés, mais on a des poules, des lapins, des pintades, enfin tout un tas d'animaux dont Jean-François s'occupe. Il fait aussi du jardin potager. Donc tout ça, ça fait partie de sa passion, quoi.
Ouais, et alors comment ça t'est venu l'envie de fait d'avoir des poules
Bah parce que j'aimais bien les animaux, j'aime bien la nature, je m'en occuper, ça m'occupe. Voilà.
Ah, tu pourrais faire la console aussi, non?
De quoi?
Tu pourrais faire de la console, hein, plutôt qu'élever des poules.
Ah bah j'en fais aussi.
Mais les poules, ça prend du temps quand même, parce que tout le monde n'a pas de... Tout le monde n'a pas... Enfin, tout le monde a un jardin, tout le monde pourrait faire des poules quelque part, mais il n'y a pas beaucoup qui le font, quoi.
Ouais, c'est plus par passion surtout, ça m'occupe, j'aime bien m'en occuper. Puis des fois, quand j'ai des petits, c'est agréable à regarder, voilà.
Et au niveau du jardin, alors, qu'est-ce que tu vas faire pousser, là, cette année?
Ah, un peu de tout, patates, des pommes de terre, des tomates, des carottes, des betteraves, des poireaux, des choux, pas mal de choses. Tout ce qu'on fait dans un jardin. Là, en potager, ouais, je joue 200, ouais.
Et au niveau de la terre, est-ce que t'as déjà entendu parler de la grelinette, par exemple?
Non, jamais.
Même à l'école, on ne vous parle pas de la grelinette?
Non.
La grelinette, en fait, c'est pour retourner le sol, mais pas en profondeur.
Ah, et
parce qu'a priori, du coup, tu fais les vers de terre avec, je sais pas, tu utilises quoi déjà comme turbine, enfin tu...
Motoculteur.
Motoculteur, tu retournes tout en profondeur, quoi.
Ouais, voilà.
T'as appris quoi à l'école?
Le travail du sol. Mais c'est sur les grandes cultures, les céréales, qu'on apprend tout ça. Le travail du sol, les engrais, la fertilisation.
Et t'as entendu parler des engrais verts?
Ouais, j'en fais par exemple, de la moutarde que je mets l'hiver, puis après que je broie au printemps, ça fait de l'engrais vert.
Et les engrais autrement chimiques, t'en utilises ou pas?
Non, jamais. De toute façon, ça sert à petite échelle comme ça, ça sert à rien, mais et même.
Le Roundup?
Purin d'ortie.
Purin d'ortie.
Ouais, voilà, par exemple le purin d'ortie sur les tomates, mais ça c'est naturel, que du naturel.
C'est toi qui le fais, le purin d'ortie?
Ouais, oui.
Bah raconte-moi, comment on fait un purin d'ortie et pourquoi tu... Enfin, qu'est-ce qui t'est... Comment t'as su qu'on pouvait utiliser du purin d'ortie? Mamie, elle faisait pas ça?
Non, je crois pas, mais... on coupe des orties, je sais pas, moi j'en mets les trois quarts d'un seau, je mets de l'eau dessus, je laisse fermenter 15 jours, je ressors... Donc, faut le filtrer, donc enlever les feuilles, tout ça. Puis après, on peut le mettre c'est pour les tomates, surtout. Ça fait un espèce d'engrais qu'on appelle ça. Voilà.
Et t'as appris ça où, alors, le purin d'ortie?
Dans les bouquins, à voir. Puis pareil, à force de voir des jardiniers faire.
Et alors, tu penses que toutes ces méthodes, ce genre de choses, ça peut pas être utilisé dans la grande agriculture?
Non, parce que c'est... Ça serait une perte de temps. Ça va bien à petite échelle, mais à grande échelle, ça serait pas faisable.
Ça serait pas assez rentable, c'est ça?
Voilà, ça serait pas assez rentable, puis ça serait trop de temps, une augmentation de la main-d'œuvre, du temps de travail. Ça serait pas possible.
Chaque intervention que je vais réaliser dans les champs avec les élèves, à chaque fois on va leur présenter ce qu'on apporte, même si le choix stratégique de la décision d'apport d'engrais par exemple a été prise par d'autres personnes ou par une autre classe, on va systématiquement justifier les doses apportées et en justifiant que c'est exactement ce dont a besoin la plante suite à des lectures d'analyse de sol ou des systèmes d'observation qu'on met en place sur les parcelles qui nous permettent exactement de définir quels sont les besoins de la plante. Alors dans les référentiels, on nous impose, par exemple, moi je dois apprendre aux élèves à utiliser ce qu'on appelle un pulvérisateur, l'appareil qui permet de traiter dans les champs, d'apporter tous les produits phytosanitaires. J'ai systématiquement une partie dans ces cours-là qui m'est demandé, il faut parler du recyclage des produits, comment on gère les restes de produits, qu'on ne les épand pas librement ni dans l'environnement ni dans une rivière. On a des protocoles à respecter avec des doses à respecter. Donc ça, c'est une partie incontournable que moi, je suis obligé d'aborder lorsque je fais ce genre de cours auprès des élèves. Lorsqu'ils vont analyser, voir tout ce qui est étude du sol, étude de la terre, on va voir les sols qui sont plus ou moins filtrants, les sols qui laissent plus ou moins passer les différents éléments polluants pour pas qu'ils se retrouvent dans les nappes phréatiques. Ça va être abordé dans ce genre de cours. Et de toute façon, on essaye de prendre en compte au mieux, on connaît très bien nos parcelles et on fait en sorte aussi de faire des travaux dans les champs qui nous permettent d'éviter ces phénomènes. Par exemple, il y a un phénomène qu'on appelle l'érosion, c'est-à-dire que la terre va s'éroder à force, et ne serait-ce qu'en changeant le sens de travail dans les champs, c'est-à-dire en évitant de les travailler dans le sens d'une descente mais plutôt en travers, on va retenir les éléments de terre. Donc on essaye de faire toutes ces, toutes ces démarches-là lorsqu'on fait nos travaux dans les champs.
Et donc là, le stage que tu fais, enfin que tu as fait pendant plusieurs mois à côté, là, c'est quel type d'agriculture ?
L'agriculture intensive. Enfin, des grandes cultures, de l'agriculture céréalière intensive.
Il a combien d'hectares ?
145.
Et ça, c'est une grande exploitation ou pas, alors, 145 ?
Non, une moyenne, c'est correct. C'est pas très grand, mais ça va, c'est suffisant.
C'est suffisant pour vivre, c'est ça ?
Ouais, voilà.
Et donc lui, toutes ses terres sont à l'Aumois ?
Ouais, autour de l'Aumois, oui.
Et comment il les a eues, ces terres ?
Bah, il a repris l'exploitation de ses parents, puis bah, à force, à l'époque, ça se trouvait bien, les terres. Donc, maintenant, non. Donc il n'a pas eu trop de mal à s'installer à l'époque.
Et alors toi, tu vas faire comment ?
Bah, on verra bien, je sais pas trop. Pour m'installer, ça va être dur, donc peut-être travailler à la coopérative, dans les silos, tout ça. On verra bien. Parce que...
Ouais. Et il a pas de l'élevage aussi, ton agriculteur, là ?
Il fait des vaches laitières. 80 vaches laitières qu'il a.
Qui sortent ou qui restent à l'étable ?
Non, qui sortent l'hiver, qui restent à l'étable. Mais l'été, qui sortent au pré, tout ça.
Ouais. Il vend le lait à des coopératives, c'est ça ?
Ouais, à Mamie Nova, je crois, pour faire des produits à la coopérative Nova, je crois. Alors, là, c'est les vaches, c'est des génisses. Il a que des. Ici, c'est que les petites. Il y a les petites génisses. À côté, il y a les grosses génisses. Moi, c'est des petites. Elles n'ont pas encore fait de veau, donc. C'est pas encore des vaches laitières, et puis. Voilà.
Elles sont où, les vaches laitières ?
À Fontenay-Mauvoisin, chez un collègue à lui avec qui il est associé sur les vaches laitières.
D'accord. Donc, en fait, il a plusieurs associés, cet agriculteur ?
Il est juste associé avec quelqu'un pour les. Pour les vaches et puis quelqu'un d'autre pour les animaux, pour les céréales, pour le matériel.
Pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher, c'est ça ?
Ouais, voilà. Parce que maintenant, tout seul, on peut plus. On a du mal à s'acheter. Ça permet d'acheter à plusieurs du matériel plus puissant.
Et tu préfères quoi, toi, l'élevage ou la culture ?
La culture.
C'est nouveau ça, il me semblait que tu préférais l'élevage avant, non ?
Ouais, bah avant je faisais pas de potager, rien, donc j'avais que l'élevage. Que maintenant quand je fais du potager, l'été quand il fait beau, c'est agréable d'être dans le jardin, abîmé, tout ça, plutôt que les poules on leur met deux poignées de grains, puis c'est bon pour la journée.
Et quand tu disais pas travailler en coopérative, ça serait faire quoi ?
Bah je sais pas trop, m'occuper dans les silos, tout ça...
Qu'est-ce qu'ils font dans les silos ?
Bah, ils stockent le grain, ils le répartissent selon les variétés, ils préparent les engrais. Ouais.
Est-ce qu'il y a des agriculteurs bio dans le coin ?
Oui, il y en a un qui vient de s'installer à L'Aumois, à côté. Et puis il y en a un à Cravant aussi, qui a l'air de bien marcher.
T'es déjà allé voir comment ils travaillaient ?
Non, jamais.
Toi, ça t'intéresse ou pas l'agriculture bio ?
Ouais, ça m'intéresse, mais je sais pas ce que j'aimerais trop faire.
C'est-à-dire ?
J'aimerais bien être agriculteur en céréalier.
Sur une grande exploitation ?
Voilà, sur une grande exploitation.
Quelle image tu as en fait de l'agriculture bio ?
Dans l'agriculture intensive, il faut peut-être 150 hectares pour vivre. Dans l'agriculture bio, 10 hectares, c'est suffisant. Donc moi, ça m'intéresserait moins, mais éventuellement... Je dis pas que j'aime pas ça, mais ça m'intéresserait moins.
Pourquoi ? Parce que tu veux avoir plein de terres, en fait, c'est ça ?
J'aimerais bien travailler. Puis le sol, il se travaille c'est totalement différent de l'agriculture intensive, le bio.
C'est les tracteurs, en fait, qui différencient,
non ? Non, c'est le mode de travail. Pas mal de choses, ouais.
Parce que papy, il avait combien d'hectares, hein, ton grand-père ?
35 hectares et 10 vaches.
Et ça te suffirait pas, toi, 35 hectares, hein ? Parce que lui, déjà, à l'époque, il avait tout ce qu'il fallait. Moissonneuse, tracteur, remorque. Et pourtant, il arrivait à faire de... Bon, c'était l'agriculture intensive. Mais ça suffisait.
Mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne suffit plus.
Ouais. Bah, à l'époque, ouais, mais maintenant, non. 35 hectares, maintenant, on ne fait rien avec. Si, bah, du bio, c'est faisable, mais... Sinon, 35 hectares, on ne fait pas grand-chose avec.
Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que tu dis toi-même que tu vas avoir du mal à avoir des terres. Mais du coup, ça serait peut-être plus facile, plus accessible, alors l'agriculture bio, s'il y a besoin de moins de terres pour toi.
Bah oui, éventuellement, mais... C'est pas ce que je voudrais trop faire, mais éventuellement, oui, pourquoi pas.
Tu préfères appauvrir les sols, c'est ça?
Non, non, l'agriculture de maintenant... L'agriculture raisonnée et appliquée par certains agriculteurs, ça limite l'appauvrissement des sols, la pollution, tout ça.
Non. Le fait aussi d'être sur le tracteur, tout ça, ça lui plaît bien, de conduire une moissonneuse qui serait pas amenée à faire si c'était de l'agriculture biologique, enfin, à moins grande échelle, quoi. Donc ça l'intéresse beaucoup moins.
Ouais, bah oui.
Donc c'est ça aussi. Mais bon... Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, l'agriculture, on va de plus en plus vers une agriculture raisonnée. Enfin, on en parle de plus en plus. Et on sait que l'utilisation des engrais va devenir quelque chose de contrôlé et de limité. Donc, je pense que... Enfin, j'espère que dans l'avenir, on parlera plus d'agriculture raisonnée. On en parle, en tout cas. On commence à en parler. Parce que moi, je sais, je travaille dans une coopérative, et je sais qu'on en parle beaucoup et que même au niveau des engrais, il y a certains engrais qui étaient utilisés il y a encore 5 ans qui sont interdits maintenant. Parce que ça abîmait vraiment trop les sols et les terres et on revient quand même à une agriculture un petit peu plus raisonnée.
Et à la coopérative, les agriculteurs biologiques t'en vois enfin,
Il y en a, mais très peu, très peu.
Ils viennent faire quoi la coopérative enfin, alors, parce que là, la tienne, c'est plus de l'agriculture intensive.
Moi, chez nous, c'est plus de l'intensif, mais il y a une filière biologique qui s'est développée parce que, entre guillemets, je ne veux pas dire que c'est obligatoire, mais tu as quand même des agriculteurs qui font du blé bio ou du blé bio surtout et qui sont bien obligés de le livrer à la coopérative. Donc, il y a une filière de biologique. Et malheureusement, c'est une filière qui est très peu développée pour la vente derrière. C'est-à-dire qu'il livre à la coopérative, mais la vente derrière, bah, tu n'as pas forcément le client derrière pour acheter. Donc c'est pour ça que ça ne se développe pas beaucoup.
Et pourtant, quand on lit des articles sur le sujet, il semblerait qu'en France, il n'y ait pas assez d'agriculteurs bio par rapport à la demande.
Je sais que chez nous, en Île-de-France, je travaille en Île-de-France, c'est pas encore le cas. Apparemment, la distribution derrière ne suit pas.
Ah, il y aurait une quantité qui serait importante, mais on n'aurait pas derrière une infrastructure suffisante pour distribuer les produits.
Pour distribuer, voilà. On en parle de plus en plus aussi parce que le bio devient quelque chose, je ne vais pas dire à la mode parce que c'est peut-être pas le mot, mais ça plaît de plus en plus et donc on va, je pense, être obligé de développer un petit peu ce secteur. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose qui est rentré beaucoup dans les mœurs, en tout cas au niveau des agriculteurs. Ils sont encore beaucoup avec leur agriculture intensive parce que on sait ce que c'est, faut que ça rapporte de l'argent. Voilà.
Vous avez des cours sur l'agriculture bio ou pas du tout hein?
Non, pas du tout.
Est-ce que tu en as des copains qui, eux, seraient intéressés pour faire de l'agriculture biologique et qui seraient venus au lycée agricole pour ça?
Non, je crois pas, non. Non. Pas à ma connaissance.
En BEP céréales, c'est pas tellement abordé. Ça intervient en fait au niveau du BTS plus particulièrement puisqu'il y a une partie du programme qui fait la relation entre l'agriculture et l'environnement et dans ce cadre là on peut donc développer tous les moyens que l'on a de faire de l'agriculture en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement et donc on peut aborder notamment l'utilisation de l'agriculture biologique comme solution pour éviter et pour réduire l'impact négatif de l'agriculture sur l'environnement. Pour la sensibilisation au monde du travail, les élèves font des stages. Donc déjà ça les met en contact avec un milieu professionnel, puisque c'est une formation professionnelle, donc ils ont un temps de stage assez long. À l'occasion de visites ou de sorties, ils ont également des contacts avec le milieu professionnel. Mais bon, c'est vrai que le contact principal, c'est quand même le stage qu'ils ont à faire au cours de la formation et qui leur demande un travail approfondi. Donc un travail important sur un sujet qui peut être spécifique. Donc là, ils sont vraiment au contact direct du travail.
Tu voudrais rester en Île-de-France ou
Ouais, éventuellement, s'il y avait possibilité, mais sinon ça ne me gênerait pas d'aller autre part. Bah, c'est sûr qu'il y a certaines régions qui sont totalement délaissées, mais c'est moins intéressant non plus. Il n'y a pas une très bonne qualité des sols, tout ça, c'est pas le même type d'agriculture.
Et en Ile-de-France, il y a des possibilités de quand on n'a pas de parents agriculteurs, quels sont les débouchés?
Alors, l'utilisation, enfin la formation agricole va effectivement, si on n'est pas du milieu agricole, il y a tout un ensemble d'organismes techniques qui gravitent autour de l'activité agricole et qui permettent de trouver un emploi. On va en fait faire du soutien technique auprès des agriculteurs. Bon, c'est vrai que c'est assez difficile de reprendre, de s'installer comme agriculteur quand on n'a pas soi-même de la famille dans l'agriculture. Bon, certains le font parce qu'ils vont par exemple justement à l'occasion des stages faire un stage chez un agriculteur qui peut-être n'aura pas de successeur, et il peut y avoir dans ce cas une reprise qui se fasse si finalement le contact est bon entre le jeune et l'agriculteur qui l'a employé. Donc il y a des reprises comme pas des. Des installations qui se font comme ça, même si ce n'est pas la majorité, effectivement. Mais bon, ça peut se faire aussi à l'échelle de la France. Mais c'est vrai qu'en Ile-de-France, il y a peut-être plus à la fois des exploitants qui n'ont pas forcément de successeurs, dont les enfants n'ont pas voulu reprendre, parce que c'est vrai qu'on a un choix d'activité qui peut être plus grand peut-être en Ile-de-France que dans d'autres régions. Et puis, on a aussi des jeunes qui voudraient se tourner vers l'agriculture et qui n'ont pas de famille, qui ne sont pas issus de l'agriculture, et qui peuvent, dans certains cas, justement, reprendre ces exploitations qui n'ont pas de successeur. Puisqu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a donc aussi de moins en moins d'enfants d'agriculteurs. Donc là, actuellement, dans l'établissement, les fils et filles d'agriculteurs sont minoritaires. Ils sont devenus minoritaires.
Parce qu'on parlait de notre voisin, en fait, il a 145 hectares, mais sur ces 145 hectares, il n'est propriétaire que de 35 hectares. Le reste est en location. Mais on disait que pour acheter, ça coûte énormément cher, parce qu'ils font compter environ 5000 euros l'hectare. Pour vivre décemment, il faut 150 hectares, donc 5000 euros fois 150, 600 et quelques mille euros. Rien que la terre. Donc après, il faut quand même du matériel, un local, un hangar. Donc c'est vrai qu'un jeune qui veut s'installer ne peut pas acheter. Ce n'est pas possible. Donc il faut trouver des terres en location ou alors...
On pourrait acheter, on va dire, 30 hectares. 30 hectares, c'est 150 000 euros, ce qui est déjà beaucoup. Plus le matériel agricole, on va dire, avec 250 000 euros, peut-être qu'il pourrait commencer, mais il n'aurait que 30 hectares en propriété, donc il faudrait qu'il trouve aussi à louer autour.
Voilà, parce qu'il ne pourrait pas vivre avec 30, ouais. Avec 30 hectares, il ne peut pas vivre. Il faut un minimum de 150 hectares maintenant pour... il faut encore 120 hectares à louer.
Et on trouve des terres à louer? Ça se loue?
Faut savoir qu'il y a quand même de moins en moins de fils d'agriculteurs qui reprennent derrière le père. Donc c'est vrai que... peut-être pas ici en Ile-de-France, mais il y a des régions qui s'appauvrissent, entre guillemets, par rapport aux agriculteurs. Puis quand on voit les agriculteurs qui gagnent de moins en moins bien leur vie,
même avec
150 hectares, donc c'est pour ça aussi que les jeunes n'ont pas envie de reprendre. Il faut les comprendre.
Oui, c'est pas toujours facile. Alors là, je parlais des productions végétales, mais dans le cas des productions animales, par exemple, parfois, un certain nombre d'exploitants peuvent avoir du mal à s'en sortir avec des revenus qui sont irréguliers d'une année sur l'autre, comme on peut le voir avec les problèmes avec le lait. Et donc, ils n'ont pas forcément envie de voir leurs enfants dans les mêmes situations un petit peu fragiles.
Il y a combien d'agriculteurs, au moins ?
4 ou 5.
Il y a combien d'hectares ?
1000 hectares.
Et il reste des petits agriculteurs, un peu comme papy et mamie
Oui, il y a Xavier Frémont qui a éventuellement un petit agriculteur qui a 80 hectares, mais qui est obligé de faire un autre métier à côté.
Voilà. Parce qu'il ne peut pas vivre avec ses 80 hectares, ça ne lui suffit pas. Donc il est obligé d'avoir une activité extérieure.
Il a hérité, lui, des... enfin, c'est un fils d'agriculteur.
Bah, ça fait un petit peu comme les grands-parents, comme et papy. Il a repris les terres de son grand-père, qui avait certainement autant de, à peu près oui, comme papy, voilà, même pas au départ. Bon, et puis le reste est en location. Ouais. Parce qu'il y a des agriculteurs ici qui sont décédés, qui ont mis leurs terres en location. Enfin, les enfants ont mis les terres en location. C'est pour ça qu'il arrive à 80 hectares. Et comme ça ne lui suffit pas pour vivre, il fait une activité autre.
Dans les débouchés, il y a donc le travail dans les instituts techniques ou les organismes de conseil auprès des agriculteurs. Il y a aussi des activités dans des exploitations agricoles qui cherchent de la main-d'œuvre, hein, parce qu'actuellement, bon nombre d'agriculteurs en fait, ont du mal à trouver de la main-d'œuvre pour les aider dans leurs travaux. Donc là, il y a toujours un besoin de main-d'œuvre en agriculture. Donc il y a des élèves qui peuvent donc devenir... salarié agricole et éventuellement chef de culture, aide en tant qu'aide aux exploitants, donc avec des responsabilités qu'ils peuvent prendre dans l'exploitation au fur et à mesure de leur évolution.
Tu peux travailler en tant qu'ouvrier agricole, non ?
Ouais, mais ils sont payés de misère. Il faut vraiment tomber chez un bon agriculteur, il faut qu'il y ait de la surface et tout.
Puis donc, 150 hectares, t'es tout seul à exploiter dessus ?
Oui. Oui, maintenant, oui. Ils ont des machines très performantes quand même maintenant. Et on exploite seul et... Oui, oui, ça suffit.
Ça fait une personne, quoi.
Une personne, voilà.
Et toi, t'envisages de commencer... Enfin, ça te ferait pas peur de commencer comme ça à t'endetter ? Je pense pas que t'aies de l'argent de côté, un petit pécule.
Non, ça me ferait pas peur. Faut bien se lancer pour...
Potentiellement, on peut toujours faire un emprunt. Il faut que la banque veuille bien prêter. Mais de toute façon, en général, au démarrage d'une installation, il y a toujours un emprunt qui est nécessaire, même si on a déjà une mise de fonds. Donc si on n'a pas du tout de mise de fonds, il faudra forcément un emprunt, mais il faudra forcément qu'il y ait une mise de fonds qui soit faite. Au niveau de la banque, il faudra quand même des garanties. Donc il faudra qu'il y ait une mise de fonds qui soit faite par... par une aide extérieure, il faudra que le jeune soit aidé, soit par un agriculteur qui va le soutenir au départ, soit par d'autres organismes qui pourraient aider à l'installation. En agriculture biologique, il y a une organisation sous forme de fonds d'investissement qui se développent pour justement aider à installer des jeunes dans ce domaine-là. En agriculture classique, jusque-là, ce n'était pas le cas, puisque la tradition voulait que les jeunes s'installent sur les terres de leurs parents. Mais c'est vrai que ça évolue.
Et un jeune, en fait, qui n'a pas de parents agriculteurs, qui veut se lancer, vous lui conseillez quoi ?
C'est très difficile. En Ile-de-France, c'est très difficile. Le prix des terres, le prix des reprises de fermes sont très, très élevés. Et il y a de moins en moins d'agriculteurs qui tendent à vouloir s'agrandir. Puis on a aussi la pression urbaine aussi dans la région où des terres sont reprises. Donc du coup, c'est très difficile. Au niveau financier, pas au niveau technique. Au niveau technique, on a des élèves qui sont tout à fait compétents et passionnés, qui seraient capables de faire de très bons agriculteurs. Mais disons que lorsque dans la famille, il y a déjà une structure, c'est beaucoup plus facile de faire une transmission d'exploitation.
Alors c'est quoi les débouchés pour un jeune qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de parents agriculteurs et qui fait un bac pro ?
Alors, un élève qui va faire un bac pro, ça dépend vers quelle option il s'est dirigé.
Céréales.
Plutôt, alors production végétale, c'est quelqu'un qui va soit travailler en exploitation agricole.
Comme ouvrier.
Voilà, ouvrier agricole, c'est-à-dire chauffeur de tracteur, chef de culture, pourquoi pas. Qui va aller travailler vers les coopératives, faire conseiller technique, pourquoi pas. Faire vendeur, on a beaucoup de commerciaux, c'est quelque chose de très recherché. Tout ce qui est commercial en agrofourniture, on appelle ça. Donc ils vont se diriger vers ce genre de métier-là plutôt. La reprise directement est assez difficile. Certains se lancent en auto-entrepreneur aussi un petit peu, ils se facturent leurs services auprès d'agriculteurs, mais c'est des investissements qui sont tels que c'est très difficile aujourd'hui de s'installer hors cadre familial. Ou alors, il faut avoir des idées, se diversifier, se lancer dans du maraîchage biologique, pourquoi pas, se lancer dans un petit peu des niches économiques au niveau des bouchées de produits. Là, il y a encore des places à se faire, mais c'est pas facile.
Il vaut mieux faire un BTS ou pas ?
On dit toujours, plus le niveau d'études est élevé, moins le banquier fera la tête pour prêter de l'argent. Voilà. Donc, plus ils vont faire d'études, plus ils auront de notions, plus ils seront crédibles face à un banquier, face à des organismes officiels, pour pouvoir s'installer.
Et après, l'année prochaine, tu vas faire ton stage ailleurs ou tu restes ici?
Certainement ailleurs, peut-être.
Tu dois changer de... Ton stage, tu dois le faire ailleurs, normalement, non?
Non, pas obligatoirement, mais on verra bien si je trouve, si ça dépend de pas mal de choses.
Tu voudrais faire quoi? Bah oui, parce que l'année prochaine, c'est bientôt.
Ouais, bah on verra. De toute façon, sinon, si, le lycée, ils en trouveront bien. On verra.
Je sais pas. Et tu vas y aller comment? Si c'est de l'autre côté de...
Bah voilà, c'est pour ça. On verra le moyen de transport et tout. Parce que je vais peut-être pas avoir faire de stage. Parce que je vais peut-être faire par alternance. On verra, je sais pas.
Ah, tu continuerais en alternance? Tu peux faire d'alternance préparer un bac pro en alternance?
Ouais, ça se fait.
T'as le choix entre faire juste un stage ou alors être en permanence pratiquement?
Ouais, voilà.
Et tu préférerais quoi, toi?
Je pas trop de préférence, je m'en fiche un peu.
Ici, dans l'établissement, il y a deux possibilités. Une formation par apprentissage en agroéquipement ou une formation dite initiale, hein, c'est-à-dire en scolaire, en production végétale. La finalité, c'est un bac. Les deux, les matières générales seront les mêmes. Par contre, il y en a certains, on appuiera plus sur la conduite de matériel, sur la maintenance du matériel, et l'autre, ça sera plus sur de l'agronomie, de la phytotechnie, tout ce qui est étude des plantes et du sol. Hein, en agroéquipement, je crois même qu'on est les seuls sur le secteur. Hein. Effectivement, il y a peu d'établissements qui le font. Il faut dire aussi qu'il y a peu de jeunes, hein, c'est des petites promotions, parce que c'est un milieu qui est très méconnu du grand public. Hein, les gens ont une image très ancienne de l'agriculture, avec du vieux matériel. Hein, ils ont du mal à imaginer qu'aujourd'hui, un tracteur, ça a 10 ans d'avance sur une voiture, au niveau technique, et que ça demande des compétences aussi très précises pour le conduire. Hein, parce que, je veux dire, ça fait appel à des notions d'automatisme, de programmation, qui sont assez pointues. Donc, du coup, ça demande un minimum de formation. Mais quelqu'un qui vraiment veut faire sa place dans l'agroéquipement, qui est motivé, pour peu qu'il parle l'anglais, il choisit son métier dans le pays qu'il veut.
Est-ce qu'il vaut mieux faire un bac pro en alternance ou général?
Bah, le bac pro en alternance, la particularité, c'est que les élèves ne font que 20 semaines d'école par an. Donc tout le fond de cours est fait sur un nombre de semaines limité, donc 40 semaines sur les 2 ans de formation première terminale. Les autres ont seulement, entre guillemets, 10-12 semaines de stage. La différence est donc technique. Sur le terrain, ils ont 2 ans d'expérience professionnelle lorsqu'ils arrivent sur le marché. Donc entre un bac pro par apprentissage et un bac pro en formation initiale, hein, traditionnelle, le bac est le même au final. Mais par contre, ils ont une expérience professionnelle qui est plus élevée. Cependant, ça demande du travail personnel parce qu'on est moins à l'école et le bac est le même. Donc il faut être capable de travailler personnellement pour compenser le fait qu'il y ait moins d'heures de cours. Donc c'est quelque chose d'assez difficile pour des jeunes.
Je préférais qu'ils continuent dans la filière normale parce que j'ai peur qu'ils se déconnectent un petit peu de l'enseignement général et qu'ils soient trop axés sur son professionnel, parce que je sais qu'il aime ça. Et j'ai peur qu'ils délaissent un petit peu le côté général et... Donc c'est ce qui me déplaît un petit peu. Bon, peut-être que je crains ça pour rien, mais je préférerais quand même qu'ils continuent à l'école.
Jean-François, c'est quelqu'un techniquement qui est assez, qui est très performant, qui est passionné, hein, par tout ce qui est machine. Enfin, moi, je le vois au niveau de ma matière. C'est quelqu'un que je verrais effectivement bien travailler dans tout ce qui est machine, agroéquipement. Enfin, dans tout ce qui est agroéquipement. Moi, je le verrais bien être apprenti en exploitation pour pouvoir finaliser sa formation, avoir une bonne expérience professionnelle. C'est quelqu'un, s'il est performant et s'il continue comme il est actuellement, qui pourra choisir le lieu où il voudra travailler après, hein, dans la machine.
Hein. Alors après, au niveau salaire, ça reste quand même...
Alors bah voilà, c'est sûr, si on veut travailler juste comme chauffeur de tracteur, on va se retrouver assez limité, effectivement. Hein, je veux dire, on va être sur une base un peu au-dessus du SMIC pour démarrer. C'est vrai que l'évolution, après, sauf évoluer vers chef de culture, c'est assez limité. Par contre, dans tout ce qui est agroéquipement, on a l'avantage d'être dans un milieu qui a beaucoup de mal à recruter. Hein, voilà, 5000 postes non pourvus par an en France. Ça recrute, on a des offres qui tombent de partout, aussi bien pour des chauffeurs, mais aussi en concession de matériel agricole. Hein, ils ont beaucoup de mal à avoir des personnes à mettre en face au niveau des postes. Les concessionnaires sont même prêts à finir les formations, c'est-à-dire faire des formations spécifiques constructeurs une fois qu'ils sont embauchés. C'est-à-dire que finaliser la formation, hein, moi tous les ans j'ai des concessionnaires qui me téléphonent et qui me demandent est-ce que tu as quelqu'un justement qui serait un petit peu motivé par la mécanique, qui voudrait venir en concession. Et ils me disent même si nous on ne les forme pas proprement dit à la mécanique, on les forme à faire de bons chauffeurs et des bons chauffeurs capables d'entretenir leur machine, on ne fait pas des formations de mécaniciens, eux finalisent la formation par la mécanique. Ils demandent aujourd'hui, hein, les concessionnaires demandent quelqu'un de motivé, passionné par le milieu. À partir du moment où ils sont motivés, ils finiront de les former.
Non, c'est un distributeur en engrais.
Ah, engrais ça.
Ouais.
Donc ça, 8000 euros, ça.
À peu près, ouais, parce que là, c'est un gros, déjà.
Et ça?
Ça, c'est une charrue, une 6 corps.
C'est pour labourer, ça?
Voilà, ouais.
6 x 2, parce que ça se retourne, ça pivote.
Ouais, mais ça, c'est quand tu arrives au bout de champ, dans l'autre côté, tu la retournes. Ça évite de refaire une manœuvre.
Et ça, c'est combien?
Je sais pas, entre 20 000 et 30 000 euros, peut-être.
Ah oui, il y a quand même.
Et ça a une durée de vie de combien de temps, alors, ce matériel? Il est obligé de racheter régulièrement?
Non, un matériel, ça dure quand même un certain temps. Le matériel de maintenant dure moins longtemps que le matériel de dans le temps.
En fait, il est dépassé technologiquement rapidement, en fait, c'est ça?
Voilà. Donc,
au bout de 10 ans, il y a de nouveaux matériels qui font que bah, ils sont plus adaptés, plus performants, plus... Voilà. Ouais, c'est plutôt ça, ouais.
Il fait que du blé, l'agriculteur, là?
Non, orge, colza, blé et des féveroles.
Tout ça, c'est pour vendre.
Voilà, ouais.
Par exemple, pour l'alimentation des vaches, il ne fait pas de céréales?
Non, rien. Tout des granulés et du foin.
Ah, c'est quoi, ça?
Alors ça, c'est un canadien.
Et ça sert à?
À déchaumer en profondeur. D'accord. C'est un travail en profondeur.
Donc c'est pour enlever la paille, c'est ça?
Ouais, pour retourner la paille, l'enfouir un peu. C'est ce qu'on passe souvent après la machine.
Ah, c'est après la moisson, ça, c'est ça?
Ouais, voilà.
D'accord, c'est pour retourner.
Puis là, bah, c'est un...
Et ça, c'est quoi? Combien ça vaut, là?
15 000 euros, peut-être.
Ok. Ça, c'est pas des meubles. Et la remorque?
10 000. Sachant que c'est une vieille, ça et tout, elle a au moins 20 ans.
Une normale, si on lui achetait un nouveau...
Ouais, bah une normale, peut-être 20 000 euros, une bonne remorque. Tout dépend de la capacité, parce que si t'as des remorques qui font 10 tonnes et t'en as qui font 30 tonnes. Donc,
finalement, la remorque est moins chère que la charrue.
Ah bah oui, c'est clair.
La charrue, ouais. C'est plus cher, en fait.
Bah, c'est
et
sûr, ouais.
J'en ai aussi une bonne partie que les travaux publics viennent nous prendre, le secteur du BTP, parce que les machines sont quasiment les mêmes. En plus, on les forme à conduire ce genre de machine au sein de l'établissement. Donc du coup, ben, les travaux publics viennent les chercher parce que les gars de l'agriculture sont... Souvent, c'est un jeune de l'agriculture, c'est synonyme de gars courageux qui compte pas ses heures. Donc souvent, ils passent devant les autres.
Donc de belles perspectives de travail intense et fatigant et exploitation, non, je sais pas.
Oui, mais ben, on fait des heures. Il y a des heures à faire. Mais aujourd'hui, le fond, c'est faut être passionné, faut aimer les machines. Si on aime les machines, ils comptent pas leurs heures. Tous les apprentis que j'ai, les patrons leur demandent le soir, bon écoute, souvent il est tard, tu rentres à la ferme. Alors, souvent c'est ça, hein. C'est le patron qui leur dit, oh c'est bon, t'en as assez, faut jouer. Eux, ils resteraient toute la journée sur le tracteur. Hein. Ils adorent ça, hein. C'est une passion.
Est-ce que tu as discuté avec mamie de son métier d'agricultrice?
Ouais, un peu. Mais bon, avant, ça m'intéressait moins, je rentrais pas trop dans les détails, ça m'intéressait pas spécialement.
Mais c'est pas, elle n'a pas participé au fait que tu aies eu envie d'être agriculteur?
Non, pas spécialement, non. C'est le fait de la vie à la campagne, tout ça, qui m'a... Les animaux, tout ça, ouais.
Et ton père, fils d'agriculteur, il t'en a parlé aussi de cette vie à la campagne, cette vie d'agriculteur?
Non.
Non, mais t'allais faire un peu... Tu allais quand même des fois faire la moisson avec lui. Enfin, quand il allait dépanner, parce que Jean-Luc était appelé pour faire quelquefois des dépannages de tracteurs en pleine moisson, Jean-François y allait et il montait dans la moissonneuse et il restait dans la moissonneuse. Donc peut-être aussi que, sans le savoir, ça lui a donné le goût de la culture, quoi. Parce que ça remonte à quoi? Une dizaine d'années, ça. Oui, il montait dans la... Et puis il aimait ça.
Il avait quel âge?
6-7 ans. Hein,
je me rappelle une photo où il est devant la moissonneuse à papy.
Oui, c'était, voilà, c'était la moissonneuse de papy. Il devait avoir ça, 3-4 ans. Mais il est allé quand même régulièrement pendant les moissons dans la moissonneuse de l'agriculteur du coin. Avec son père l'emmenait et puis il récupérait peut-être 2 heures plus tard parce que ça lui plaisait quand même déjà.
Mais t'as pas de souvenirs?
Si, mais...
Je ne sais pas si c'est ça qui t'a donné le goût, mais peut-être voilà. Aussi.
C'est un peu
que...
ça, peut-être.
Oui, voilà.
C'est un peu le voisin, c'est un peu les papis, c'est un peu la mamie, voilà. Un peu la pratique du tracteur.
Et alors, pourquoi tu as voulu récupérer le tracteur de papy? Qu'est-ce que tu veux en faire de ce tracteur?
Pour débuter, c'est vite, peut-être, je ne sais
voilà,
pas.
Comme utilité pour... C'est toujours pratique pour charrier des choses. Par un exemple, pour charrier du bois, par exemple, des choses comme ça, voilà.
Puis c'est le tracteur de la famille aussi, quand même.
Hein, ouais, voilà.
Il faut le dire, tu n'oses pas le dire, mais c'est ça aussi. C'est, ça reste dans la famille, c'est le tracteur de la famille. Et...
c'est un vieux tracteur,
c'est,
quand même.
C'est un
vieux
tracteur, pas, il n'a oui. pas l'air aussi... Je pense pas qu'il soit aussi puissant que celui derrière. Hein. Il doit être deux fois moins gros, quand même. Hein.
Quatre fois moins gros,
ouais. Bah, ouais c'est... Et déjà à l'époque c'était un tracteur AS70, c'était le, je pense que c'était ce qu'ils faisaient de bien, enfin c'était pas non plus le haut de gamme, mais...
Non, c'était bien, mais oui, c'était le tracteur de tout, de l'agriculteur, moyen, voilà, oui.
Ouais.